Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Une actrice, un acteur.
Bon, j'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture.
Attends, t'as eu un accident avec ma bagnole ?
Une série culte.
Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la trompette.
Une histoire.
Alors là, non, c'est pas possible, ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça.
Série Conique, un podcast de Télé 7 jours.
En 1995, Justine et Jérôme, de premier baiser, quittent le lycée pour les années fac. La même année, une autre bande de lycéens prend la relève dans la famille AB Productions avec une nouvelle série, La philo selon Philippe. Comme le titre l'indique, Philippe, c'était le séduisant prof de philo du lycée qui passait autant de temps à débattre de Platon avec ses élèves que de soigner leurs peines de cœur et autres contrariétés d'ado. Son interprète, Yannick Debin, a accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Vous en souvenez ?
Oui. Ça a rythmé ma vie pendant quelques temps. Oui. C'est difficilement oubliable.
Vous avez 27 ans quand TF1 lance La philo selon Philippe en 1995. Et vous aviez un profil atypique pour un acteur d'AB Productions, c'est-à-dire que vous n'étiez pas mannequin ou amateur, vous veniez du théâtre, ce qui était quand même assez rare. Comment en êtes-vous venu à incarner Philippe ?
C'est le hasard de ce métier. J'ai dû croiser la personne qui s'occupait du casting, qui devait être Aude Messéan, je crois, à l'époque. Et c'est vrai qu'elle faisait des recherches très, très en adéquation avec les comédiens qui avaient l'habitude de travailler pour mes productions, pour Jean-Luc Azoulay et Berda. Et donc, moi, Aude m'a appelé, j'ai fait le casting, j'ai vu effectivement plein de photos de gens qui faisaient les castings. Finalement, il y avait pas mal de gens de tous les horizons, des gens qui avaient l'habitude de faire du cinéma, des gens qui faisaient de la télé, des gens qui faisaient du théâtre. Bon, j'ai fait le casting et puis, voilà, j'ai été pris. C'est vrai que moi, j'avais pas forcément l'habitude de faire des séries comme ça très rapides. Ça m'inquiétait un peu, d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était une expérience intéressante. Parce qu'en plus, c'était un sujet qui me paraissait fort. Être dans une idée de transmission avec des élèves. Bon, moi, j'avais presque l'âge d'être un élève. Hein. J'avais l'air d'avoir presque 20 ans. Donc, c'était assez curieux.
Donc, vous n'avez pas hésité ?
Non.
Non.
En fait, c'était vraiment... Ce qui m'intéressait, c'était de faire quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire dans des conditions que j'imaginais pas simples parce que très rapides. Mais bon, je me suis dit, allons-y. Et c'est vrai que c'était très, très rapide.
On en parlera plus tard. On sent de la part des producteurs une envie de proposer une série plus mature, voire plus intellectuelle que ses autres productions de l'époque, Hélène et les garçons, Salut les musclés. Je me trompe ?
Non, justement, c'est aussi ça qui m'a fait accepter, parce que je me suis dit, enfin, dans ce qu'on m'avait décrit, j'aimais beaucoup l'idée, justement, de réflexion autour d'un sujet. C'était ça, l'idée de départ. C'était, il y avait un sujet et, on décortiquait une pensée, la pensée de la philosophie autour de chaque thème. Et je trouvais ça bien parce que ça élevait un petit peu le débat. Et en même temps, les séries AB, c'était des séries populaires. Donc, c'était un moyen hyper... novateur, d'aller chercher des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de parler de ces sujets-là, sur des sujets un peu forts, un peu lourds, de sujets quotidiens, et aller directement vers des gens qui avaient envie de discuter autour de ces sujets-là, qui sont des sujets quotidiens et essentiels, je pense.
Vous incarniez donc Philippe Daubigné, un professeur de philosophie de lycée. J'ai retrouvé une interview accordée à Télé 7 jours, à l'époque, dans laquelle vous aviez déclaré « Ses réflexes sont proches des miens, ils s'attaquent aux idées préconçues. Bien avant que la philo ne soit à la mode, je m'interrogeais sur le droit de mentir, sur la différence entre l'être humain et l'animal. » C'est un rôle qui vous ressemblait ?
Oui, assez. J'ai toujours... moi, quand j'ai fait mes études, j'ai effectivement fait de la philo. C'était vraiment quelque chose qui me touchait, qui m'interrogeait. J'ai toujours eu envie de comprendre, de savoir, d'essayer de faire des liens avec des pensées. J'ai lu, par exemple, la théorie du droit de mentir. On l'étudiait en terminale. Et c'est vrai que ça me parlait vraiment. Et j'avais vraiment l'impression que c'était ce que j'aurais pu être si j'avais été prof de philo. Et finalement, même dans ma vie, bon, j'ai souvent des liens avec des plus jeunes, des étudiants, parce que j'essaie de transmettre parfois mon métier à des étudiants au cours de petites animations. Et je trouve que, oui, en ça, ça me ressemble. J'adore l'idée de transmettre à des gens et de se questionner autour des sujets forts de la vie en général. Et là, en l'occurrence, la vie quotidienne nous renvoie toujours à des pensées importantes et fortes. Donc,
Vous avez eu des retours de vrais profs ou d'étudiants en philo? Je suis pas sûre que les profs de philo regardaient la philo selon Philippe, mais...
Alors, en fait, si, j'ai eu des profs de français, de philo... pas forcément de philo seulement, mais d'histoire, plus autour de l'éducation en fait, qui disaient qu'ils avaient connu cette situation-là, c'est-à-dire ce désir d'échange sur des idées importantes, sur des choses quotidiennes, et aussi là, comme moi j'avais 27 ans, mais j'en paraissais plutôt 24, je pense, 23, j'avais pas une grande différence d'âge avec mes élèves. Et j'ai eu plein d'anecdotes. Je crois qu'il y a un épisode où ça se passe un peu comme ça. Le prof de philo, Phil, arrive dans la salle des profs et on lui dit « Vous êtes trompé d'endroit, c'est la salle des profs ici, c'est pas les élèves. » Et en fait, il y a plein de profs qui me disaient « Mais c'est drôle parce que moi, j'ai vécu ça aussi. » Donc, il y avait effectivement l'intelligence vraiment de Jean-Luc, c'est de choper ces trucs-là qui sont des vraies choses quotidiennes qui existent, qui ont eu lieu. Et donc, les gens, ça les renvoie à leur réalité. C'est vraiment ça.
Alors, on n'est pas du tout là pour faire le procès de la série, mais c'est vrai qu'en 2020, T1, il y a quelques petits trucs qui interpellent, comme la relation un peu borderline de Philippe et ses élèves. Bon, à la limite, ses élèves féminines, elles étaient toutes amoureuses de lui, mais bon, ça, à la rigueur, ça arrive tout le temps, et je pense... voilà. Mais la frontière entre l'école et la vie privée était souvent franchie. Les élèves débarquaient chez lui à n'importe quelle heure et ils réglaient leurs affaires de cœur pendant ses cours. Et il a même couvert un élève qui s'était inventé un frère jumeau pour sortir avec deux filles à la fois. Je vais vous faire écouter l'extrait. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Alors, on va t'appeler comment? Michel? Christophe? À mon avis, on va l'appeler Faucheton.
En venant ici, j'ai croisé votre frère jumeau. Il m'a chargé de vous dire qu'il ne viendrait pas. Il vous appellera ce soir.
Ok, merci monsieur.
Pas de quoi.
T'as vraiment un frère jumeau?
Eh oui.
Mais c'est incroyable, mais si vous l'avez pas dit, on t'aurait jamais cru.
Série Conique, un podcast de Télé 7 jours.
Il y a ce côté chez Jean-Luc un peu... comment dirais-je? Un peu teenager, enfin. Donc, je crois que c'est plus pour rendre sympathique le professeur de philo. Il s'est peut-être pas posé la question qu'aujourd'hui, peut-être, on se pose plus parce que la société est devenue un petit peu plus, de mon point de vue, sur certains sujets, un peu fermée, où on est revenu à une période un peu, très judéo-chrétienne. Je pense que c'est juste une petite anecdote pour dire voilà, Phil est sympa, il est du côté des jeunes gens. Mais après, si on décortique, effectivement, il y a des petits moments où il était un peu limite.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour de tournage?
Oui, enfin, je me souviens que ça a duré très longtemps. Je me souviens que c'était nouveau pour pas mal d'entre nous, puisque les jeunes, certains n'avaient jamais tourné. Moi, évidemment, j'avais tourné, mais pas dans ces conditions-là, hyper rapide. Donc, je pense que la journée de tournage devait commencer à 8 heures et devait se finir à 8 heures. Et la première journée, on a dû finir à minuit, enfin, voire un peu plus tard. Donc, c'était un peu laborieux, c'était pas simple. On était assez tous très heureux d'être là. Il y avait quelque chose de très sympathique, mais on était un peu tendu parce qu'on se disait, mais si toutes les journées sont comme ça, ça va être une catastrophe. Et c'est vrai que la première semaine, je pense qu'on a rarement fini avant minuit. Et c'était une époque où c'était peut-être encore possible. Aujourd'hui, je pense que les tournages qui finissent à minuit tous les jours pendant une semaine...
Bah surtout si vous avez commencé à 8h du matin, je...
Oui, et puis moi, j'étais dans beaucoup de séquences, donc c'était un peu épuisant. Après, le rythme vient, et puis on s'habitue, on va plus vite, on a des petits réflexes. Mais les premières journées étaient un peu dures. Sympathiques, mais dures.
On va maintenant écouter une archive, extrait du documentaire « La fabrication des sitcoms AB ».
Eh bien, les normes, c'est une journée, un épisode.
Qu'est-ce qui a dicté ces normes ?
Eh bien, ce sont des conditions commerciales. Généralement, les feuilletons ou les sitcoms américains arrivent ici complètement amortis et sont vendus à un certain prix. Donc, pour les concurrencer, on était obligé de s'aligner sur ces prix. Donc, une journée de tournage, on arrive à les concurrencer. À deux jours pour un sitcom, on se rend des équipes totales.
Quelles qualités faut-il pour être réalisateur chez AB ?
Toutes les qualités. C'est-à-dire, il faut être un bon metteur en scène, un bon réalisateur de direct aussi, parce qu'on est obligé de prendre les images au vol, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réaliser. Il faut avoir de la maîtrise et surtout de la santé, parce que nous tournons plus de 14 à 15 heures par jour pour un épisode.
La voix qu'on vient d'entendre était celle de Jacques Samine, qui était réalisateur sur la série. Vous êtes d'accord avec son analyse ?
Ah bah oui, c'est exactement ça, en fait. Mais c'est vrai que du coup... Ceux qui sont en bout de chaîne, c'est-à-dire les réalisateurs et les comédiens, bah, ils subissent. Alors, les réalisateurs, effectivement, comme il dit, il faut vraiment cadrer tout ça, tenir, il faut savoir tout faire. Le comédien, il s'occupe que de lui et en plus, on s'occupe un peu de lui. Donc, c'est presque un peu plus simple, enfin, sauf pour ceux qui sont dans toutes les séquences. Mais c'est vrai que c'est tenu par cette chose économique. Et si Jean-Luc voulait vendre en ne perdant pas d'argent, eh ben, il faut qu'il fasse ça en très peu de temps. Et donc, nous, on était tenus par ça.
Vous receviez les scénarios deux jours avant, voire parfois la veille pour le lendemain.
Deux jours avant, ce n'est pas arrivé souvent.
Bah, en fait, c'est ce que vous dites dans le même documentaire, c'est ce que vous expliquez. Mais bon, vous dites deux jours avant, quand on a de la chance.
C'est ça. Deux jours avant, c'était quand on avait de la chance. C'était plutôt la veille pour le lendemain. Mais cela dit, moi, j'étais à peu près dans toutes les séquences. Donc, j'apprenais mon texte. Et la journée où je travaillais, le lendemain, on m'aurait donné le texte pour dans deux jours. J'aurais même pas pu le lire, parce que j'étais tout le temps en train de bosser. Donc le soir, quand j'arrivais chez moi, je commençais par le lendemain. Même si j'avais le texte dans deux jours, je pouvais pas apprendre de texte. Donc on le faisait au jour le jour. Et c'est vrai que la mémoire, c'est un muscle génial. C'est-à-dire que quand on l'entraîne... Je me souviens, je prenais le bus, pendant la période de grève, c'était un peu plus compliqué parce que j'allais en vélo à Aubervilliers. Mais quand on allait dans le métro ou dans le bus ou dans le taxi, peu importe, on avait nos textes à la main et puis si on était deux dans la voiture, on répétait ensemble. Si on était tout seul, on apprenait le texte dans la voiture ou dans le bus. Et quand on arrivait sur le plateau, on avait un répétiteur. Voilà, c'était du super rapide et même au niveau texte, ça se faisait un peu au dernier moment.
Et comment vous faisiez si vous aviez une grippe carabinée
Il n'y avait pas de grippe.
Personne, quelqu'un de malade avec 40 degrés, avec 42
degrés.
Moi,
j'ai eu une allergie, je sais pas quoi, un médicament, et je crois que c'est la seule fois où j'ai dû quitter le plateau avant la fin. Et encore, j'ai dû, je suis rentré plus tôt. Il y a une séquence que j'ai pas dû faire, mais j'ai tenu 80% de la journée. Mais bon, c'est pareil au théâtre, hein, on peut être malade, on peut avoir même une extinction de voix, on nous fait une piqûre de cortisone, on est comme des sportifs de haut niveau. On se débrouille pour que on joue quand même. Et ça marche. Enfin, l'importance de l'enjeu fait que on oublie parfois les mots qu'on a.
Et malgré ce rythme de tournage très lourd, vous aviez trouvé le temps à la même époque de jouer dans la pièce L'école des femmes avec Michel Galabru.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Comment c'est possible d'avoir combiné les deux?
Je me le demande encore aujourd'hui. Écoutez, bah là, pour le coup, ça devenait encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait être sûr qu'à telle heure, j'ai terminé pour pouvoir aller rejoindre la troupe de l'École des femmes avec, effectivement, Michel Galabru. Finalement, dans ce métier, ça se fait souvent. Hein. Alors, les grandes stars, ça leur arrive très souvent. Depardieu, il part en moto, il va faire un tournage là, un autre tournage là. Bon, moi, c'était, je finissais ma journée de tournage. Quand j'avais le temps, je prenais un taxi, j'allais au théâtre. Et sinon, il y avait quelqu'un qui m'emmenait en moto. Alors, parfois, c'était un peu la catastrophe. Il pleuvait. Je me disais, je vais même pas arriver. On va se scratcher avant que j'aille. Mais bon, ça le faisait. Et en fait, c'est aussi ce qui est merveilleux dans notre métier, c'est qu'on se dit « ça n'est pas possible », mais en fait, si, c'est possible. Le fait que ce soit une obligation, ça devient possible. On met tout en place pour que ce soit possible, et c'est possible. Et on se dit « on va être fatigué », en fait, on ne l'est pas tellement, on est sur l'énergie. En revanche, quand ça s'arrête, on est à plat.
Au final, vous aviez quasiment le même âge que ceux qui jouaient vos élèves, à 5 ans près. L'ambiance était bonne entre les acteurs ?
Oui, très bonne. C'était vraiment... tous les gens qui étaient là étaient plutôt très heureux d'être là. C'était vraiment... Tous étaient des bons camarades. Ils aimaient bien ce qu'ils faisaient, ils rigolaient. Bon, c'est les plus jeunes, moi, j'avais 27 ans, mais j'avais déjà presque 10 ans de métier. Donc, j'étais peut-être un peu plus sérieux tout en m'amusant. Je n'avais pas beaucoup le temps, mais les plus jeunes, eux, c'était la belle vie. Ils tournaient pas forcément dans toutes les séquences, donc ils avaient des libertés. Il y avait des gens qui parlaient d'eux, il y avait des articles sur eux. Donc, pour eux, c'était quelque chose d'hyper positif. Donc, il y avait beaucoup de joie.
Est-ce qu'il y a une scène dont le tournage vous a particulièrement marqué ? Par exemple, moi, j'ai vu un épisode où vous plongez. Alors, je pense que c'est dans la Seine, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est pour sauver votre fiancée.
Ouais. Non, c'était un lac dans l'Oise. Je ne sais plus très bien où on a tourné.
En tout cas, il avait l'air de faire froid.
Il faisait extrêmement froid. Ça se voit pas, j'ai l'air peut-être un tout petit peu plus gros parce que j'avais une combinaison sous mon costume. Le personnage de Karine,
Muriel.
C'est Muriel, saute dans l'eau pour se suicider. Et donc, je vais la repêcher.
Avec Alexis Loret.
Voilà, ouais. Absolument. Et donc, l'eau était à 10 degrés. Hein.
Série conique.
Et votre copine, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Eh bien... On s'est perdu de vue pendant quelques années, et puis, il y a 2 ans, on s'est retrouvés.
Vous voulez dire que c'est la fille avec qui vous vivez actuellement ?
Oui. Quand je vous disais qu'en amour, jamais rien n'est définitif. Muriel ?
C'est comme ça qu'elle s'appelle ?
Muriel, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Muriel ! Muriel !
On a répété beaucoup sans qu'elle saute, pour simuler ce qui allait se passer après, pour essayer de faire le moins de prises possible. Et la première prise où on décide de la faire vraiment, le réalisateur, au moment où il y a la course vers l'avant, où j'essaie de la rejoindre, le réalisateur dit « Stop, stop !» Mais elle est très loin, donc elle n'entend pas. Donc, elle va dans l'eau. Et donc, moi, j'y vais aussi. Et il dit, mais non, on ne l'a pas tourné. Donc bon, donc au lieu de plonger deux, voire trois fois, on a dû plonger quatre fois. Et c'était pas... Donc il fallait se sécher, et puis recommencer. Et on avait un peu froid. Mais bon, c'est un bon souvenir quand même.
Est-ce que la médiatisation a été compliquée à vivre ? Parce qu'elle a été soudaine, j'imagine.
Ah oui, hyper soudaine.
Et Abbé, on sait que c'était la folie. C'était plutôt des jeunes fans.
Ouais, ouais.
C'était comment de vivre ça ?
En fait, c'est assez impressionnant parce que moi, je tournais tous les jours et le mercredi, on avait une petite pause l'après-midi. C'est-à-dire qu'on tournait que le matin et l'après-midi, c'était off. En tout cas pour moi, dans mon souvenir. Et le premier mercredi où je sors de chez moi, bon, j'habitais à Bastille, un endroit quand même assez populaire, enfin oui, en tout cas il y a du monde, il y avait plein de gens qui me regardaient et je me disais mais j'ai un truc, j'ai un truc dans les cheveux, et très vite il y a des jeunes filles ou des jeunes gens qui sont venus me dire ah mais c'est toi Phil, mais et dans la journée j'ai eu peut-être une quarantaine de personnes et même mes amis, j'avais déjà des amis qui marchaient bien dans le métier, ça leur était jamais arrivé, jamais. C'est vraiment un produit qui, du jour au lendemain, on est... c'était regardé, je ne sais plus par combien de personnes, mais en part de marché, c'était énorme à l'époque. Et du coup, sur la question, est-ce que ça me gêne? Non, en fait, tout comédien qui soit, quand ça arrive, on a une sorte de... On est content, on se dit, on est important, on se connaît. Tous les jeunes étaient hyper ravis, ils allaient dans des boîtes gratuites, ils rentraient, tout, c'était la belle vie. Mais assez vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut choisir des moments de calme, où on est tranquille pour aller au supermarché, je ne sais pas, acheter un petit truc, où on se retrouve au fin fond de... Moi, j'ai une maison en Bourgogne, et je vais... faire des courses chez Auchan ou je ne sais, et que pendant tout le trajet pour aller chercher un yaourt, il y a des gens qui vous suivent en disant « Ah, Phil ». Bon, au bout d'un moment, on se dit « Bon, ben, j'aimerais bien juste aller acheter mon yaourt ». Mais sinon, ça restait très sympathique. Fallait pas que je passe quand même devant des McDo ou des... fallait pas que j'aille à Disney, fallait pas que... C'était un peu compliqué, là. Si je partais à Disney, il y avait un attroupement, ou si je passais devant... Donc j'évitais les lycées et les McDo.
Tous les lieux où il y avait des jeunes, en fait.
Oui, je me disais, oh là, si je passe là, je vais rester une heure, parce que je me connais. Donc je disais, oh là, je change de trottoir, je passais à côté.
Une actrice, un acteur, une série culte, une histoire... Série Conique, un podcast de Télé 7 jours.
On sait que l'étiquette A et B a été un peu compliquée à porter pour beaucoup d'acteurs après. On parle même de boycott de certains directeurs de casting. Ça a été votre cas ?
Oui. Enfin, moi, je faisais du théâtre, je suis revenu au théâtre, j'ai continué de faire pas mal de théâtre. Donc, en tout cas, j'en ai pas souffert. Le fait est que c'est un métier curieux. Parfois, on étiquette les gens, on dit ça, c'est une personne. Tendance à changer d'ailleurs aujourd'hui, mais grâce à Jean-Luc et grâce à toutes les productions qui sont faites, comme Plus belle la vie, Demain,
Demain nous appartient.
Voilà, des choses comme ça. De même qu'il y a quelques années, les gens qui faisaient des pubs, on les considérait comme juste des comédiens de pub et ils faisaient pas, sauf les stars, ils faisaient pas tellement d'autre chose. De même, ceux qui faisaient de la télé, on disait ils font de la télé donc ils peuvent pas faire de cinéma. Enfin, c'est pas qu'ils peuvent pas, mais on pense pas à eux pour le cinéma.
Et à l'inverse, ceux qui faisaient du cinéma ne faisaient pas du tout de télé.
Absolument, ils se disaient faut pas que je fasse de télé, sinon je vais être dans le. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais c'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'il y a pas mal de peut-être de directeurs de casting qui voulaient pas. Qui se disait, je ne vais pas prendre cette personne qui a joué dans ce qu'on appelait à l'époque les soaps. Bêtement, je trouve. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est Alexis Loret. Moi, je le trouvais déjà merveilleux parce que très nature, très, très photogénique, très vidéogénique, très, très sympathique.
Il est génial, son personnage.
Ah ouais, il est très bien. Ouais, et puis, il le jouait avec vachement de naturel. Et donc, il y a des gens intelligents, si je peux me permettre, en l'occurrence c'est André Téchiné, qui ont pris ce jeune garçon, qui du coup avait appris à utiliser cette technique, parce que c'est un super bon apprentissage pour les jeunes, c'est-à-dire qu'on sait tourner, on sort de là, on sait tourner, ça va hyper vite. Donc après, quand on fait un film, on est hyper libre, parce qu'on a le temps. Donc, de mon point de vue, c'était une bêtise, ce boycott, mais il était réel. Heureusement, ça a tendance à changer. Et les gens passent un peu plus facilement entre le théâtre, le cinéma, la télévision, et c'est très bien.
En 2010, vous avez repris votre rôle de Philippe dans Les Mystères de l'amour. Comment vous en êtes venu à ça? C'est Jean-Luc Azoulay qui vous a contacté?
Oui, en fait, je pense que Jean-Luc avait le désir de réunir tous les anciens d'AB, et puis les figures un petit peu de chaque série qu'il avait faite. Donc, je crois que j'étais au théâtre, je ne sais plus... qui m'avait appelé, si c'était Dorothée ou Jean. Enfin, en tout cas, il est venu vers moi en disant oh, j'aimerais bien réunir pour les je sais plus, c'était les 15, enfin, je sais plus combien de temps après. Et j'ai dit oui, je sais pas, enfin, j'ai traîné un peu la patte parce que je me disais, ça va être encore des conditions, il va falloir courir partout. Moi, je suis pas très vieux, mais je me disais, j'ai plus l'âge de faire de courir partout. Et finalement, par affection, et puis j'aime bien l'idée que les gens qui vous ont donné, voilà, qui vous ont donné un beau cadeau à un moment donné, ben, on les remercie. Donc c'était ma façon de le remercier. Et j'ai dit OK. Et puis bon, l'équipe est sympa, tout ça, mais je me suis rendu compte que c'était plus pour moi de faire ça très rapidement. J'arrive pas bien. Donc je me suis dit non, c'est bon. Mais c'était très sympathique. Et puis les comédiens, on sent qu'ils sont... C'est une famille en fait. Et c'est ça qui est assez sympa. Mais moi, je suis indépendant. C'est ma famille parce que j'ai travaillé avec eux. Mais je me sens pas tout à fait en phase à 100%, même si je trouve ça sympathique.
Et donc, justement, principalement, vous, après l'arrêt de la série, vous êtes revenu à vos premiers amours, qui est le théâtre.
Voilà, exactement. Ouais, c'est une chose que, autant je peux me passer de télé. Après, évidemment, ça dépend avec qui on travaille. On peut avoir un désir profond de travailler avec tel réalisateur, tel comédien, enfin, surtout les réalisateurs, ou sur des sujets qui nous passionnent. Mais moi, viscéralement, le théâtre, quand je joue pas, quand je suis pas sur un plateau, ça me manque. C'est vraiment quelque chose qui est physique. La télé, le cinéma, moins. J'en ai besoin, j'ai envie d'en faire dans des bonnes conditions, mais ça va pas m'abîmer, alors que le théâtre, si je suis pas au théâtre pendant quelque temps, c'est plus dur.
Vous avez dû souffrir.
Oui, oui, j'ai souffert, je souffre encore un peu. Mais bon, j'ai des projets qui, j'espère, vont aller au bout.
Et bien justement, vous pouvez me parler de votre actualité?
Alors, j'avais joué une pièce de Michel Tremblay qui s'appelle Les anciennes odeurs, qu'on doit reprendre, mais alors évidemment avec tous les problèmes de... sanitaire que nous avons connu, ça s'est décalé, c'est un peu compliqué. J'ai des producteurs qui sont qui ont très envie de reproduire le spectacle, donc ça risque de se faire, mais voilà, je suis en attente de cette chose-là. Après, j'ai d'autres projets, j'ai des projets toujours de théâtre, d'adaptation d'une œuvre que j'aime bien. Et sinon, en attendant, pendant toute la période de crise sanitaire, j'ai créé un petit podcast parce que je vais de temps en temps dans une maison de retraite et je dis des textes à des personnes qui malheureusement ne peuvent pas forcément bouger. Donc je dis des textes, soit des poésies, soit des petits contes, soit des romans. Je les dis des choses comme ça et je me suis dit, tiens, bah, puisque je ne peux plus y aller physiquement, je vais les enregistrer. Donc j'ai fait un petit podcast qui s'appelle
«
À voix haute », exactement. Et le principe étant de remettre au goût du jour cette idée qu'on peut transmettre des textes à voix haute, comme on le faisait lors de veillées, ou pour raconter à ses enfants des histoires, ou on se mettait autour du feu il y a quelques temps encore, et on racontait un conte. Et j'aime bien cette idée de transmission par voix orale, parce que parfois, je trouve que ça laisse... l'imaginaire de la personne qui écoute, l'enfant ou l'adulte, peu importe, voir des choses qu'on ne voit pas quand on a la chose évidente devant nous. On construit autre chose et j'aime bien cette idée-là. Donc voilà, je me suis lancé dans ces enregistrements de textes. J'ai enregistré déjà, je ne sais pas combien, 300, 400 textes, des choses longues, des choses courtes. Et bon, les gens écoutent, ça marche bien, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup Yannick Demain.
Merci à vous, merci.
Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7 jours.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.